Bonjour, ce midi, au cœur des rencontres des cinémas d'Europe depuis la salle Le Bourneau et le studio Claude Lost, nous allons accueillir dans quelques instants Enrico Masi, auteur, réalisateur, musicien, compositeur peut-être, on lui demandera. Il vient nous présenter Shelter, Farewell to Eden, avec mon bel anglais. Et c'est Léna qui va le recevoir d'ici quelques secondes. Alors je vais la saluer tout de suite. Bonjour Léna, et merci d'être là. Ensuite, c'est Maud Lelgouache qui viendra nous parler d'une soirée qui va mêler jeux vidéo sur grand écran et projection du film Sweat, et non pas Sweet, s'il vous plaît, Sweat de Magnus von Horn, long métrage sorti en juin dernier qui nous entraîne dans le monde de Sylvia, une jeune coach sportive et influenceuse. Maud Lelgouache intervient au nom de l'association Playful qui va proposer en amont de cette projection, dès 20h, une série de jeux vidéo en lien avec le thème du film, jeu dont vous pourrez d'ailleurs prendre la, voire les manettes. Voilà pour le programme de cette bonne demi-heure que nous allons passer ensemble. Et on va commencer, Léna, eh bien, avec ton invité.
Bonjour Enrico.
Bonjour à tout le monde.
Alors aujourd'hui, on va parler de votre film qui sera possible de voir en salle cet après-midi, qui s'appelle Shelter, Farewell to Eden. Alors peut-être qu'on peut commencer par traduire ce titre pour les personnes qui n'auraient pas compris.
Oui, Shelter, c'est un abri, un refuge en français. En italien, c'est riparo, rifugio, similaire en français de refuge. J'aime beaucoup le mot abri, parce que nous n'avons pas en italien quelque chose de similaire, abri. Et c'est intéressant pour moi de comprendre l'étymologie de cette mot. Nous avons cet abri, l'idée d'un abri. Peut-être l'abri, c'est le faux abri, c'est l'Europe, peut-être. Mais pour moi, c'est un truc plus profond, plus intime, plus obscur. Et après, nous avons Farewell to Eden, qui j'aime beaucoup aussi Farewell, parce que c'est un peu au revoir, arrivederci, Farewell. Mais aussi, c'est un peu différent, Farewell. C'est un peu adieu, c'est un peu romantique, on peut dire. Et To Eden, parce que Pepsi vient d'une île de l'archipel sud de la Philippine qui s'appelle Mindanao, qui est un véritable Eden.
Donc ce film, c'est l'histoire de Pepsi qui va quitter les Philippines, son Eden, pour trouver un abri. Pourquoi elle doit trouver un abri?
Mais c'est pas sûr exactement pourquoi nous tous on fait des parcours dans notre vie. C'est pas un certain thé, quelque chose de sécure, de maîtrisé. C'est plutôt une recherche jour par jour, mois par mois et année par année. Pour Pepsi, encore plus peut-être, parce qu'elle fuit d'une réalité violente, c'est un euphémisme, parce que elle, sa famille, ça a été détruite, tuée par une guerre qu'il y a entre les gouvernements centraux de Luzon et cet mouvement qui s'appelle MILF, Moro Islamic Liberation Front.
Le Front de Libération Islamique Moro.
Moro. Et c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Mais c'est un mouvement très fort de résistance pendant les années 80, 90, 2000, qui existe dans le sud de cette grande île. C'est une île avec des millions de habitants. C'est un peu comme la Sicile, on peut dire, une île très grande. Et c'est une île avec la jungle tropicale. Et c'est pour ça que Pepsi a quitté cet environnement pour aller dans la métropole de Manila, et après, une histoire qui fait le tour du monde.
Elle a quitté ce lieu, notamment à cause de l'environnement violent lié à ce Front de Libération Islamique, mais aussi parce que c'est une personne transgenre. Elle se définit dans le film comme gay.
Ouais.
Vous voulez dire deux mots là-dessus?
Oui, elle fait part du mouvement MILF. Elle est un nurse, une infirmière du mouvement MILF. Elle est un combattant. Pepsi, c'est un combattant. Elle a quitté, pas à cause du MILF, mais à cause de la situation, des violences qui existent là-bas. Et aussi, encore plus pour cette question de genre, que c'est pas sûr même, parce qu'elle,
elle se questionne.
On peut dire que c'est un individu en transition M2F, mais cette transition, ça a été bloqué par une autre transition physique, géographique, administrative, politique, idéologique, personnelle, que c'est en question de transition autour du monde pour arriver en Europe, arriver en Libye avant, en Italie, en France, et après, on sait exactement la direction finale.
Donc c'est un peu comme si elle devait d'abord mettre en sécurité son corps physique avant de pouvoir comprendre qui elle est dans son corps à elle, peut dire ça.
Exactement, on peut dire ça.
Et donc, c'est une histoire de transition où elle va aller de pays en pays. Mais Pepsi, en fait, on la voit presque jamais à l'écran. On entend sa voix tout au long du film. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait ce choix de ne pas la filmer et comment vous avez comblé, du coup, l'absence du personnage principal de l'écran?
Mais on ne voit pas les visages de Pepsi, mais on voit ses corps, je pense... pendant le film, on voit des choses, des parts du corps. Le visage, c'est une question de sécurité, bien sûr, évident, qui ce n'est pas été une question à choisir. C'était pas un choix, à moi. C'était un truc. Ça, c'était un truc sûr. Pas le visage. Ça, c'est un sûr. Peut-être la seule. Mais nous, on peut penser que cette choisie inexistante, parce
oui,
que c'était
ce non-choix,
ça a été un peu une sorte de succès dramaturgique, parce qu'elle devient forcément un masque universel et mythologique. Pour nous, européennes, on peut dire. Pas pour elle. Pour elle, c'est seulement un choix de sécurité. Mais pour nous, c'est un sorte de symbole, de représentation d'un groupe, d'un grand groupe, et pas des Pepsi même.
C'est ce qui vous permet de rendre cette histoire individuelle, universelle.
Oui, c'est une part de ce processus de comment dire, d'ingrandiment, d'expansion de l'histoire.
Et pourtant, l'histoire, c'est quand même vraiment l'histoire de Pepsi. Et d'ailleurs, un de vos amis, je crois, a dit... Shelter, c'est l'histoire d'un corps, mais Pepsi, c'est le corps de l'histoire.
Ouais, ça c'est Marlon Pellegrini d'Istituto Luce, qui est le distributeur du film. C'est une institution très importante de Rome, l'une des plus anciennes en Europe pour le cinéma, créée pendant le fascisme dans les années 20, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est Istituto Luce, Cinecittà, le quartier du cinéma de Rome. C'est une personne qui travaille là-bas, qui a soutenu le film et a dit cette phrase-là, Marlon. Et je trouve sa phrase vraiment en synthèse, que c'est intéressant, parce que c'est Pepsi, c'est le film, c'est l'histoire d'un corps. Pepsi, c'est le corps de l'histoire, que c'est banal d'un côté, mais c'est vraiment efficace de l'autre côté pour dire que cette corps, c'est véritablement les corps matériels de l'histoire. Si on prend les études phénoménologiques, historiques, comme on peut dire Braudel ou Bourdieu, on peut dire des études qui deviennent matérielles dans un corps.
D'accord. Et Pepsi, ça a beau être le corps de l'histoire, mais pourtant on n'en sait finalement pas tant sur son histoire à elle, sur son passé. Elle raconte presque rien des Philippines. Et vous utilisez quand même parfois des images d'archives. Et du coup, on se demande d'où elles viennent, ces images d'archives, qu'on imagine faire peut-être partie du passé de Pepsi. Vous pouvez nous expliquer un peu?
Oui. Nous sommes dans une saison de cinéma alternatif de création, beaucoup en Italie, mais ailleurs aussi. Beaucoup en Europe, je dirais, mais aussi dans l'Amérique du Sud, qui est avec l'archive comme un outil très développé. Je parle des dernières 10 années, 15 années. Ils font beaucoup de débats sur ça. Pour moi, il existe aussi une écologie du cinéma qui a deux faces. La première face positive, qu'on peut dire, on utilise l'archive pour pas filmer trop, parce qu'elle est numérique, il fait déglacier les glaciers. Parce que nous avons les clouds dans les îles du Nord. Et ça, c'est un très grand problème de la culture digitale et numérique. On ne tient pas de filmer, on ne doit pas filmer beaucoup.
On ne doit pas filmer plus parce qu'on a déjà suffisamment de matériel stocké.
Et on fait des problèmes avec les glaciers, oui. Si on filme. Parce que les gigas qui entourent, oui. Entourent 1 téra par jour. Avec les digitaux, les numériques cinéma, c'est 1 téra par jour. 1 téra. C'est énorme la quantité qui va en cloud. Je pense qu'il y a une écologie de l'image, d'un côté.
Je précise juste, donc le cloud, c'est le stockage virtuel des données.
Bien sûr. Ouais. Écologie du cinéma, mais aussi la possibilité, l'opportunité d'utiliser l'archive comme un environnement visuel, mais des mémoires aussi, que tu peux utiliser pour créer des choses nouvelles. Ça, c'est plus artistique, plus créationnel, comment dire, de création. Et nous avons utilisé l'archive, des différents archives, très différents archives, pour recréer une histoire d'infance de Pepsi qu'elle n'a jamais vécue. Et ça, c'est un choix directement d'auteurs que nous avons fait. Moi, Stefano, Alessandra, l'équipe des auteurs qui a travaillé sur ça, sur le montage, Carlotta, Giuseppe. C'est un choix précis.
Puisqu'on parle d'image, j'ai remarqué dans le film, vous filmez souvent les arbres ou la forêt. D'où vient ce choix?
Je viens d'un environnement, au Bénin, dans une part d'Europe, la forêt existe dans l'Europe. La forêt existe même dans la ville, et dans la ville, à Paris aussi, à Rome aussi, à Milan aussi. Et, pas la forêt, bien sûr, pas les bois, les randonnées comme ça, mais il existe la nature dans la ville même. C'est un peu une idée de combat entre humanité et nature qui existe dans la ville et aussi dans les lieux sauvages. Mais j'ai une idée vraiment compliquée des lieux sauvages que nous avons commencé hier à parler, c'est un nouvel projet. Mais la nature, c'est dans Shelter parce que Pepsi vient d'une île tropicale et arrive à Ventimiglia, qui est un lieu plutôt avec de la nature, il y a un fleuve.
Ventimiglia, c'est la dernière ville avant d'entrer en France, entre l'Italie et
Ventimiglia
la France.
Ventimiglia, maintenant.
Oui.
Ouais. C'est un petit, tout petit passage, parce qu'il y a la montagne et les Passo de la Morte, ce passage de la mort.
Oui.
C'est très connu parce que Pepsi l'a passé pour là, avec des autres personnes, plusieurs fois. Et ça, c'est un lieu naturel. C'est pour ça qu'on voit de la nature comme un lieu obscur, pas un lieu bucolique aussi.
D'accord. Et puis, j'avais une petite question par rapport à une vache qu'on voit, je crois, à 3 reprises dans le film. Et je me demandais bien qu'est-ce qu'elle venait nous dire, elle aussi.
C'est un taureau. C'est un taureau qui représente Zeus. Jupiter.
Ah, Zeus, d'accord.
Zeus.
Oui.
Giove, en italien. Parce qu'il y a une question entre les latins et les grecs, avec la nomination, qui devient après le français, anglais. C'est une question mythologique un peu complexe, mais c'est lui, c'est Zeus, on peut dire c'est Zeus, qui fait un viol d'une jeune fille qui s'appelle Europa, que c'est le mythe d'Europa. C'est un mythe beaucoup plus ancien de la première partie de la culture grecque. Et c'est important pour nous à comprendre où arrivent les concepts d'Europe. Le concept d'Europe arrive d'un viol, d'une violation. C'est une violation faite d'un dieu avec une jeune fille. Ça, c'est vraiment clair. Et si on pense à l'Europe comme la fondation d'Europe sur ça, je pense qu'il y a beaucoup de travail à Bruxelles et Strasbourg à faire.
Et d'ailleurs, donc, dans le film, Pepsi, elle explique que pour passer au Royaume-Uni, Elle a dû accepter de se faire violer pour monter dans un camion.
Exactement.
C'est ça?
Exactement. Oui. Ça, c'est un liaison direct dans le texte du film.
Oui.
Et nous avons essayé de rejoindre cette personne à Londres parce que cette personne, en fait, c'est un ami de Pepsi.
La personne qui l'a violée?
Oui.
Oui.
C'est un ami et il y a aussi un couple de téléphone dans le film avec lui.
D'accord.
Et ça ressemble un peu à quelque chose de... comme un soap opera horreur. Quelque chose vraiment de hard. Quelque chose d'hard. Dans un film que c'est, il y a un côté documentaire, mais je dis que c'est pas vraiment un documentaire. Et ça, c'est un autre débat.
Oui.
Et nous avons essayé d'arriver à Londres à parler avec cette personne que je pense qu'elle est du Afghanistan ou Pakistan, c'est pas clair. Et il parle anglais, mais nous avons choisi de pas suivre cette route de dramaturgie parce que nous sommes restés sur Pepsi. Mais cette violation du droit, on peut dire plus symbolique, connectée à la mythologie avec Zeus et les mythes d'Europe, Pepsi comme une sorte d'astronaute qui passe dans l'Europe pour amener nous, population européenne, à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce grand phénomène que c'est la migration. Parce que la migration, ce n'est pas la migration de 2015, 2016, 2017. Nous sommes tous, toujours en migration. C'est quelque chose de plus dans genre, dans émergence d'une saison. C'est une question inhérente, je ne sais pas si elle existe, inhérente à l'humanité.
Et donc c'est ça le message plus général que vous voulez faire passer à travers ce film. On suit l'histoire d'une personne en transit, de questionner sur l'humanité en transit quelque part.
Oui, mais je dirais c'est pas vraiment mon but principal. Le but principal c'est plus intime. Je pense que c'est un dialogue entre moi et Pepsi. C'est vraiment.
D'ailleurs, on le voit dans le film. Donc, comme on l'a déjà dit, Pepsi, elle est au cœur de l'histoire, c'est sa voix qui raconte. Et en même temps, on a ces images qui arrivent, des images de forêt, l'image du taureau qui donc fait référence à une réflexion personnelle, une jeune femme sur une plage, peut-être en Sardaigne. Donc, des images qui viennent de votre sensibilité à vous. Donc, finalement, ce film, c'est un peu c'est un peu de Pepsi, mais c'est aussi un peu de vous.
Il y a un autre ami romain aussi, qui Giacomo Ravesi, qui l'a dit, que c'est professeur de cinéma à Roma 3, qui a dit que Shelter, c'est un peu un catalogue. Et j'aime beaucoup ça. Un catalogue. Il a dit, dans les montages, un peu, on pense que vous avez eu la possibilité d'utiliser un catalogue des images qui est beaucoup plus vaste du sujet. Et c'est vraiment, pour moi, ça, c'est une description vraiment pointue, parce que je viens de l'école d'Umberto Eco, et le postmodernisme, pour moi, comme génération, je suis 39, c'est vraiment central. Et l'idée de la liste et du catalogue, c'est pointue.
D'ailleurs, Pepsi, c'est un peu un catalogue d'identité, si je puis me permettre l'expression, parce qu'elle dit « Je suis gay, musulmane, rebelle, réfugiée, infirmière, je suis tout ça. » Et je trouve que ça fait de ce personnage un personnage assez original. C'est pas courant d'avoir toutes ces identités à la fois. Et comment elle le vit d'avoir toutes ces identités? Et en plus de cela, elle a aussi beaucoup d'identités papier, parce qu'on voit dans le film que pour des raisons administratives, pour réussir à traverser les frontières, elle se crée des fausses cartes d'identité aussi. Donc
non, mais je trouve que c'est plus courant que nous pensons, comme on peut dire. C'est plus courant. Nous sommes plusieurs identités. C'est quelque chose qui appartient à tout le monde. C'est plutôt au niveau psychologique, cognitif, d'utiliser d'être capable ou avoir le courage ou la nécessité d'utiliser notre plusieurs identités. Je trouve que nous sommes tous comme ça. Mais Pepsi, il a fait cette expérimentation plus radicale. Et c'est pour ça qu'elle devient un diva, complètement, un diva classique. Peut-être les films, c'est pas au niveau de Pepsi. Pepsi, c'est un niveau beaucoup plus haut. Mais je suis heureux d'avoir respecté pas seulement l'identité, la sécurité, mais aussi d'avoir pas souligné la spectacularisation, d'avoir pas spectacularisé
oui.
cette histoire.
Oui, le film reste très simple. Vous n'en avez pas fait non plus une héroïne.
Sombre. Oui. Je trouve que c'est sombre. Et beaucoup de personnes ont dit, bah, toi, une histoire très, très puissante pour un film de fiction. Tu peux faire un film de fiction avec des millions d'argent comme ça. Mais j'ai dit non, on fait un objet militant. Et c'est pour ça que nous sommes ici 4 ans après la sortie du film.
Et j'aimerais juste inscrire ce film plus largement dans les autres œuvres que vous avez faites. Il est parfois présenté comme le troisième volet d'une trilogie. Vous pouvez nous dire 2 mots sur cette trilogie et sur son but ?
C'est on appelle ça la trilogie des méga-événements. J'ai fait mon
doc. Méga-événements ?
Méga-événements, ouais. C'est 2012, The Golden Temple, 2016, Lepanto, au Brésil, The Golden Temple à Londres. Et le troisième, c'est Shelter. Ce sont 10 années, presque. 2010, 2019, presque. Et c'est la trilogie de la première partie de ma vie comme réalisateur, comme artiste, qui parle de ce concept un peu théorique qui vient de la sociologie, de l'anthropologie, qui est lié à la transformation urbaine, métropolitaine, à côté des grands événements sportifs au début. The Golden Temple, c'est sur les Jeux Olympiques, mais il devient quelque chose d'autre. Il y a la guerre, il y a la catastrophe naturelle, il y a la crise sociale comme la migration. Les méga-événements deviennent une sorte de prétexte. Et ça, il vient aussi de l'école des échos.
D'accord, merci. Alors, je pense qu'on va bientôt donner la parole à notre prochaine invitée. Mais peut-être qu'Olivier, tu peux nous rappeler à quel moment on peut voir le film d'Enrico aujourd'hui.
Ce sera Laurent.
Pardon, excuse-moi, Laurent, pardon.
C'est pas grave, je t'en prie. Alors, Enrico, on verra votre film aujourd'hui à 17h. Alors, c'est au Centre Étienne Le Bourneau, c'est ici, hein, dans ce lieu. Alors, pas dans le studio, hein, juste à côté. Et ce sera suivi d'une rencontre. Moi, j'ai quand même, il y a peut-être une question, parce que je n'ai pas eu la chance, peut-être que j'irai le voir tout à l'heure à 17h, la chance de voir votre film, ce qui explique mon silence, parce que comme je ne l'ai pas vu, du coup, je ne voulais pas intervenir. À un moment, tout de même, vous avez dit c'est pas vraiment un documentaire, alors que quand je l'entends, quand je lis le synopsis de votre film, j'ai l'impression que je vais aller voir un documentaire. Je me trompe alors?
C'est pas une question de tromper, mais c'est plutôt de réfléchir sur cette question de genre, qui c'est une question de genre physique, sexuel, d'identité, mais c'est aussi une question de genre artistique, dans la vie. Nous sommes dans un bâtiment, nous sommes dans un édifice, nous sommes dans une église, nous sommes dans un temple radio, nous sommes dans une... C'est compliqué, cette question de code, de langage. J'aimais beaucoup Adieu langage comme titre de Godard, 2014. Adieu langage. Le langage, c'est un territoire de bataille très fort. Et je pense qu'on parle tout le temps, on lit tout le temps, on écrit tout le temps, et je pense que c'est vraiment important de retourner aux batailles aussi sur les langages. Ils sont beaucoup de luttes à faire, mais aussi dans les langages. Peut-être que je fais une lutte sur les langages.
Mmh. On est en tout cas dans une démarche oui, qui est engagée, en tout cas. C'est ce que j'ai l'impression, en tout cas, de votre démarche est très engagée.
Je peux dire que j'ai eu des maîtres qui m'ont laissé des choses, des trucs à faire dans ma existence sur la planète.
Merci. Vous pourrez rester avec nous si vous le souhaitez. On va parler justement d'une espèce d'expérience que l'on va vivre pour la première année ici aux Rencontres des Cinémas d'Europe. C'est une soirée qui aura lieu aujourd'hui à 20h. Ça s'appelle Playful, transmettre la passion du jeu vidéo sur grand écran. Alors, cette Playful, c'est une association, si je ne me trompe, à but non lucratif, qui a été créée il y a tout juste un an et qui se veut, nous dit-on, un intermédiaire facilitateur pour accompagner les professionnels dans leur désir d'apporter de nouvelles expériences fédératrices à leurs spectatrices et spectateurs. Voilà, alors Maud Lelgouage, vous faites partie de cette association, c'est vous qui serez ce soir dans cette salle à partir de 20h. Est-ce que vous pouvez essayer de nous brosser un portrait justement de cette association et pourquoi cette association est née? Il faut juste vous approcher un petit peu, voilà.
Alors, c'est pas moi qui ai créé cette association, mais Alexandre Suzanne, qui est pas là aujourd'hui. Mais je pense qu'ils ont voulu créer cette association pour... un petit peu dans cette idée des lieux et des temples, si on peut se dire que le cinéma, bah, c'est le temple des films, bah, peut-être aussi que c'est simplement un temple de la culture et que c'est aussi un lieu de célébration d'une culture partagée. Et je sais que c'était pas forcément le jeu vidéo le plus important, mais le partage dans la salle. Et le fait de jouer ensemble dans la salle, de se regarder, de se rencontrer, de se passer la manette, et de faire des liens aussi avec le film qui vient ensuite, dans cet objet de médiation, mais aussi de prendre du recul sur ce qu'on va voir.
Je suis parti, moi, de l'idée que si on crée une association comme celle-ci, c'est parce que on a constaté quelque chose. Et je pense que l'un des constats des créateurs de cette association et de ce concept, c'est peut-être de s'apercevoir que depuis 2020 et une crise sanitaire, les cinémas, ça ne marche, ça va pas. Il y a de moins en moins de monde. Je parle de cinéma au jour le jour. Je ne parle pas des festivals parce qu'il semblerait, c'est même... C'est pas qu'il semblerait, c'est certain. Aujourd'hui, les festivals fonctionnent. Les festivals amènent du monde. Et les cinémas, eux, n'amènent plus de monde. Est-ce qu'ils partent de ce constat en se disant il faut recréer, parce que vous parliez tout à l'heure de temple, est-ce qu'il faut recréer au sein de ces lieux, de ces salles, il faut recréer quelque chose? On a perdu quelque chose.
Oui, je pense que ça a été... la salle de cinéma a été trop sacralisée et elle est devenue aussi un objet qui est trop utilisé par une génération qui est vieillissante. Et aussi, c'est l'idée de... Beaucoup, je vais dans les rencontres de la médiation cinéma, c'est comment faire venir les 15, 25 ans au cinéma. Et donc, je pense qu'il y a un grand travail de désacralisation de la salle, essayer d'en faire autre chose, essayer de faire comprendre aux jeunes que c'est un lieu dont qu'ils peuvent s'approprier et que ça peut être aussi un lieu de... Enfin, vraiment de joie et de jeu, et pas seulement un lieu de cinéphilie et de sérieux.
Même si ce que vous proposez, toujours en lien avec le film choisi, là on va voir le film Sweat. Sweat, c'est l'histoire de Sylvia en Pologne, qui est une influenceuse, mais qui est aussi une gymnaste, enfin une, comment on appelle, fitness, une prof de fitness qui est énormément suivie et qui devient de ce fait influenceuse. Bon, on va pas, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, vous l'avez vu ce film, c'est un film où on devient nous-mêmes presque followers finalement, puisqu'on la suit tout au long de cette démarche dans ce film. Quand vous connaissez le film, vous adaptez les jeux, vous allez choisir des jeux en fonction de ce qu'on va voir après.
Oui, bah, c'était très intéressant de travailler avec Sweat parce que justement il a un propos sur les nouvelles technologies, les nouvelles façons de communiquer, de s'exposer et de se rencontrer aussi. Et donc oui, j'ai choisi trois thématiques du film et pour chaque thématique, un jeu qui lui correspond. Normalement, on met toujours un jeu qui est un petit peu narratif, immersif, assez solo au début. Après, un jeu plus rapide, plus défi. Et après, un party game où on s'amuse plus en multijoueur. Donc, si vous voulez, je vous les présente ceux qui seront ce soir.
Ah bah oui, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? À quoi va-t-on jouer? Parce que ces jeux, ce sont des jeux que vous créez, que l'association crée, ou est-ce que ce sont des jeux qui existent et que l'association va, je ne sais pas, peut-être réadapter ou utiliser tel quel?
L'association fait un travail de curation et d'animation. Donc, on choisit les jeux et on choisit aussi la façon dont on va les utiliser. On peut aussi créer un jeu dans le jeu, on peut aussi animer ça différemment. Et on contacte les distributeurs pour avoir leur accord.
Alors, partons sur ce qu'on va voir ce soir.
Voilà.
On va être actif.
C'est ça. Donc, la première thématique de Sweat, c'est sans divulguer le scénario du film, c'est la solitude. Parce que Sylvia, elle est face à des millions de followers, mais elle est très seule dans son quotidien. Et c'est très bien représenté dans le film. Et ce jeu, c'est Céleste. C'est l'histoire d'une jeune femme qui gravit une montagne seule. Et il y a particulièrement un passage où elle se rencontre elle-même. Elle s'affronte elle-même, elle affronte son double. Et donc, il y a des thématiques par rapport à l'anxiété, à la dépression qu'on peut retrouver, alors que c'est un jeu de plateforme. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans les jeux vidéo contemporains, vraiment dans la nouvelle création. Ensuite, c'est un jeu vraiment de fitness. Donc, c'est sur la thématique du sport. Donc là, ça va presque faire de l'odorama, parce que c'est vraiment, on va sentir la sweat dans la salle, avec un jeu qui est avec le Ring Fit sur la Nintendo Switch. Donc c'est vraiment un anneau en plastique qu'on serre ou qu'on tend, et avec une manette qui est accrochée sur l'anneau en plastique et sur le genou.
Mais en réel. En réel, d'accord.
En réel, et du coup, c'est un peu la suite de la Wii Fit et de la Wii. Okay. Et donc c'est très sportif, j'ai essayé dans la semaine, j'en ai encore mal au dos, tout ça, prévenir, d'y aller doucement. Et c'est très marrant, c'est un jeu d'aventure qui invite à se surpasser en étant encouragé par un personnage virtuel aussi, un peu comme dans Sweat. Et au dernier jeu, le party game, c'est Drink More Glurp. C'est un jeu qui se moque des sponsors, qui recrée des Jeux Olympiques un petit peu absurdes, avec parfois des épreuves officielles, parfois des épreuves complètement inventées, et avec toujours les sponsors qui vendent des glurps, qui disent « drink more glurp », qui apparaissent. Et donc c'est très, très drôle et en même temps légèrement critique de cette démarche des sponsors, qu'on trouve aussi un petit peu comme Sylvia est influenceuse. Elle est amenée à utiliser des produits qu'on lui offre et puis les mettre en valeur.
Oui, elle sort son lait de soja et qu'elle montre bien avant de le mettre dans... Oui. Etc., etc. Oui, puisque c'est le rôle des influenceuses de dire, vous voyez, si j'ai la forme, c'est parce que je me nourris comme il le faut avec le produit que voici, etc., etc. C'est ce qu'on voit aussi un peu dans ce film. Donc, trois thématiques, trois jeux différents. Tout le monde peut participer. Tout le monde n'aura pas l'occasion de participer, si ?
Alors, ça dépend du nombre de personnes qu'il y aura dans la salle. Mais
ils sont très nombreux, hein, paraît-il, en ce moment.
Ils sont très nombreux. Alors, peut-être que tout le monde ne pourra pas avoir la manette, mais en général, on peut avoir jusqu'à 50 personnes qui jouent en une heure. Donc, suffisamment pour créer un bon moment de convivialité, en tout cas.
C'est une jeune association, je disais tout à l'heure, à peine un an. L'utilisation comme ça de jeux, etc., ça veut dire qu'il y a aussi des droits, il y a des choses à gérer. Je crois que vous avez eu des accords assez sympathiques avec certains éditeurs, et puis même avec la CNC, je crois.
Il y a des accords qui sont faits directement avec des éditions. Et sinon, on contacte chaque studio ou chaque distributeur à chaque fois qu'on veut utiliser un nouveau jeu.
Et répondre plutôt positivement, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je reviens à cette question de temple, là vous proposez peut-être une nouvelle approche justement de la séance cinéma classique.
En fait ça tombe plutôt bien parce que le cinéma a un peu besoin de casser son code d'image sérieuse Et le jeu vidéo a besoin justement de légitimité et de rentrer dans ce genre de temple. Donc, généralement, ils acceptent.
Et vous avez, là, ce soir, c'est un film sur lequel vous devez vous accrocher. On vous a dit que ce sera Sweat. Mm-hmm. Donc, vous travaillez en amont. Vous dites, on va travailler là-dessus. Mais après, vous avez aussi des propositions toutes faites, c'est-à-dire avec le film.
Oui, il y a des titres qui marchent bien.
Alors, lesquels de films, par exemple?
Scott Pilgrim, ouais. Qui tourne bien, qui marche bien aussi, qui est parfois ressorti pour des séances spéciales. Après, j'ai fait une séance sur le One Piece Red, qui a très bien marché. En fait, des films qui sont un peu... qui parlent à cette génération des 15-25, plus 30, 15-30. Donc, les liens se font naturellement, et même si on l'a déjà vu, on a envie de le voir aussi.
Alors, c'est-à-dire que vous vous intéressez essentiellement à cette tranche d'âge, je veux dire, et on va dire ce qu'on appelle aujourd'hui les jeunes, les 15-30 ans. Vous imaginez ouvrir vers d'autres, enfin, je ne sais pas, où les créateurs imaginent ouvrir, parce qu'on entend souvent dire que les jeux vidéo ont un côté très sympathique pour le cerveau de nos aînés, qui sont parfois aujourd'hui esselés souvent, ou qui se retrouvent de temps à autre. On dit que le jeu vidéo a du bon pour eux, finalement, d'un point de vue, cognitif.
Oui, mais en fait, c'est toujours un petit peu l'idée, parce que même si on n'est pas joueur, on accompagne des petits-enfants ou des enfants, et on est amené à aussi voir le jeu vidéo différemment. Mais pour l'instant, on n'a pas de curation spécialement ciblée pour les publics âgés. Mais...
Ça viendra peut-être.
Oui, peut-être.
Merci en tout cas, Madel Gouache, d'être venu jusqu'ici. Donc, je rappelle que la séance est à 20h. C'est au cinéma, le navire. Donc, il y a eu à peu près une heure de séance. On prend son ticket, on peut venir participer, regarder ou participer. Et puis ensuite, à 21h, vous verrez le film Sweat. Alors, je n'ai pas maintenu, malheureusement écrit son nom, mais une actrice qui déchire l'écran. On ne peut pas dire les choses autrement. C'est un film qui est sorti au mois de juin dernier. Peut-être l'avez-vous déjà vu. Il était passé sur les écrans des cinémas Le Navire. Et je pense que c'est un grand plaisir de retrouver aussi ce film qui sera projeté à 21h. Et puis, vous resterez, je suppose, à l'issue du film pour discuter si besoin avec les participants et participantes.
Oui, tout à fait. Ouais. Et échanger sur leur retour.
Ouais. C'est important aussi, je suppose, de voir ce qu'ils ont vécu et comment ils l'ont ressenti. Merci Léna, merci à Enrico Mazzi.
Merci Laurent.
Et on va en rester là pour aujourd'hui. Donc ne manquez pas ces deux rendez-vous. La projection du film d'Enrico Mazzi à 17h ici au Centre Étienne Le Bourneau, Shelter Farewell to Eden, suivi bien sûr de la rencontre avec le réalisateur, et puis à 20h au navire, cette séance à la fois de gaming et puis de cinéma, Playful, c'est le nom de cette soirée, Playful, où vous pourrez jouer, voir sur grand écran. C'est quelque chose d'assez rare tout de même, un grand écran de cinéma qui se transforme. Je suppose qu'il y a des tas de cadres différents, on voit plusieurs personnes jouer en même temps. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous demander, l'écran est scindé, il y a plusieurs, où est-ce qu'on voit vraiment la personne jouer?
Non, il est plus trop scindé dans les jeux. Dans les jeux qui sont faits aujourd'hui, on s'est habitué à avoir des écrans assez grands, ouais. Même si c'est pas des écrans de cinéma. Donc c'est assez naturel en fait. L'écran ne se scinde plus autant.
D'accord. Oui, je suis de la vieille génération. Je suis désolé. J'ai joué moi avec les raquettes de ping-pong. Vous savez, ça faisait ça. Il y avait deux traits comme ça. Et on joue au tennis en simple ou en double, s'il vous plaît. Merci à tous les trois. On va se quitter. On retrouvera cette émission à 17h ce soir. Alors le film d'Enrico Mazzi aura déjà débuté, mais je pense que vous pourrez très bien le rencontrer. Il sera encore par là ce soir. Et puis sinon, eh bien, rendez-vous demain. Il y a encore deux autres rendez-vous, ainsi que dimanche, puisqu'on arrive déjà dans la dernière ligne droite des rencontres des cinémas d'Europe. Alors profitez-en bien, c'est jusqu'à dimanche. C'est la 24e édition. Bye bye. Et à tout de suite dans les salles.